Bien le bonjour tout le monde, lundi le 9 décembre, bienvenue à Sortie de zone, ici Mario Langlois, flanqué de Jérémy Filosa, Philippe Quentin et Alexandre Pratt. Bonjour les gars, comment allez-vous?
Salut, ça va bien?
Salut Mario, en pleine forme.
Good, good, good. Oui, ah oui, ça a bien de l'allure, belle fin de semaine, ça fait drôle une fin de semaine sans hockey.
Oui, mais beaucoup de football par exemple, oui, c'est vrai, des bons matchs.
Et il y avait de méchants bons matchs, et je sais pas si les joueurs du Canadien ont regardé du football en fin de semaine, mais on sait qu'ils ont porté des chandails pas nécessairement très élégants, c'était la thématique de leur party de Noël. Donc, c'est les joueurs de hockey, compte tenu de leur horaire, célèbrent Noël en famille. Et j'imagine que les deux victoires la semaine dernière, sur trois, ont amené quand même un peu d'éléments dans l'ambiance qui règne autour de l'équipe. Puis ça, c'est important, les gars. On peut pas tourner le doigt à ça.
Surtout la manière, je pense, dont ils ont gagné à New York. Là, une belle performance de Carey Price, très encourageante, avec le but de la victoire à la toute fin du match. Il n'y a rien qui peut autant
en temps
projeter l'équipe
en plus,
temps réglementaire.
Tu donnes pas de points aux Rangers.
Ça met de l'enthousiasme. En plus, un beau but. Ils ont travaillé fort. Ils l'ont mérité. Ils ont joué un super match. Alors, c'est sûr que ça aide à passer un meilleur week-end. De là à dire que maintenant, tous les problèmes sont réglés et puis que c'est la fin de la passe très difficile. Non, j'irai certainement pas là. Je pense que le Canadien a encore beaucoup de choses à prouver.
C'était l'entrée en matière. Il y a une question qui suivra, mais d'abord sur ce qu'ils viennent de vivre.
Ben, en fait, c'est vraiment arrivé au bon moment parce que là, ils avaient trois jours finalement sans match. Ils rejouent mardi.
Ça aurait été long.
Ça aurait vraiment été long. Non, mais mettons, perdre 4-0 là, à New York là, contre un club qui est quand même ordinaire. Ça aurait été un très, très long week-end. Là, tu reviens, bonne ambiance, party d'équipe. T'es encore en avant des Maple Leafs, ou t'sais, pas très loin dans le classement, c'est pas une catastrophe encore. C'est sûr que je pense que sur le calendrier, ils avaient identifié une victoire plus importante que les autres, et c'est celle de Vancouver.
Il y a une question que Martin McGuire a posée après le match à Carey Price. Il lui a posé la question, est-ce que le style de jeu qu'on a vu sur la patinoire ce soir, ça ressemble plus à ce que vous voulez faire maintenant? Et Carey Price a dit définitivement. Tu sais, il y a deux ans, quand Claude Julien nous avait dit publiquement, on veut jouer un hockey plus intéressant.
Ben, au début de la saison dernière.
Ouais, exact. Je l'ai pas cru. Exact. Je l'ai pas cru, mais je lui ai donné le crédit parce que l'année passée, on a eu une année excitante où le Canadien a manqué les séries par un point. On a continué sur la même lancée en début d'année, mais là, avec les blessures, je pense qu'on s'est rendu compte que on pouvait pas penser continuer d'aller de l'avant en jouant de cette façon-là. Et ça a pris à Claude Julien un bon trois semaines pour, je pense, convaincre tout le monde d'embarquer dans le plan. Puis là, on voit que défensivement, on se resserre plus, on joue mieux, on se concentre plus sur la défensive et les résultats commencent tranquillement pas vite à revenir. C'est sûr que le spectacle en souffre un peu, mais on peut pas vraiment les blâmer. Présentement, c'est ça ou c'était pas là.
Après ce premier tour de table, il y a une remarque qui me fait réagir, Alexandre, elle vient de toi, concernant les Rangers, qui forment une équipe ordinaire. Je dirais juste, attention, peut-être qu'ils sont en voie de devenir une équipe meilleure qu'ordinaire parce qu'ils gagnent plus souvent qu'ils perdent depuis un bout de temps. Puis l'an passé, on disait la même affaire quand le Canadien affrontait les Blues de Saint-Louis. C'était une équipe ordinaire, puis ça donne qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Puis je sais pas si vous voyez une équipe ordinaire quand vous voyez les Rangers, mais eux autres qui ont raccourci que le Canadien n'a pas, ce sont les joueurs autonomes. Et veut pas, Panarin, sa glace. Puis tu sais, il y a eu quelques acquisitions que... donc je pense que c'est une belle victoire contre un club qui se défend bien,
équipe,
les Rangers. Puis en fait, depuis qu'ils ont remonté le Canadien samedi, il y a deux semaines, à Montréal, il y a deux, trois semaines, ils sont partis sur une séquence positive. Ouais. Maintenant, Philippe, t'avais tendance, c'est normal, parce que ça nous amène là nécessairement. Est-ce que ces deux victoires-là, puis ça s'adresse à nous tous, bien sûr, les deux victoires du Canadien à leurs trois derniers matchs, est-ce que ça permet, probablement que oui, mais je vous écoute, à l'organisation d'éviter une crise majeure? Parce que, imaginez des défaites, là, la semaine passée. On est lundi. Moi, d'après moi, il y a une conférence de presse. Je sais pas ce qu'on annonce, mais il se passe de quoi aujourd'hui. Tu pouvais pas laisser ça aller plus loin. Mais je dis pas qu'il fallait congédier qui que ce soit, mais je vous écoute, les gars, là-dessus.
Ah, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se serait passé, là. Je veux dire, on a vu la semaine dernière où on a posé un geste en rappelant qu'Aiden Primo, pour essayer de distraire, faire changer les idées, amener un kid, un prospect, duquel on est excité. Si ça avait pas fonctionné, il y a d'autres choses qui se seraient passées. Peut-être qu'un assistant entraîneur aurait perdu sa job, mais le Canadien aurait posé un geste. Le Canadien aurait posé un geste.
Ça s'est déjà fait.
Pour montrer que on essaye quelque chose, on fait quelque chose, on reste pas là à rien faire. On en a parlé, ça fait à peu près deux semaines, des transactions sont pratiquement impossibles à conclure. Quand tu juges que ton GM et ton coach ne sont pas le problème, si c'est le cas, mais tu fais quoi après? C'est ça.
Moi, c'est pour ça que moi, je pense pas que ce serait passé grand-chose, même en cas de défaite à New York, là, à moins que ça finisse encore 8-1, là, mais une défaite correct. Je pense pas qu'il y aurait eu de grands mouvements, parce que je pense pas que Jeff Molson est prêt à procéder à des changements. Je pense qu'il va laisser Marc Bergevin en poste au moins jusqu'à la fin de l'année. Il va voir s'il est capable ou non de conduire cette équipe-là à une place en séries éliminatoires. Je vois très mal Marc Bergevin congédier Claude Julien avec l'équipe qu'il lui a remise entre les mains. J'ai plutôt tendance à croire que Julien fait un boulot très honnête, d'autant plus qu'il a perdu Jonathan Drouin, c'est pas facile. Paul Byron, dans une moindre mesure, bien sûr. Donc, ça n'a pas été évident pour lui. Alors, le Canadien ne me semble pas une organisation là, qui aurait été, qui serait arrivée avec une annonce fracassante. Maintenant, est-ce que tu pourras revenir à l'essentiel de ta question, Mario? Tu disais, est-ce qu'on a évité la crise quand même? On a évité la crise autour de l'équipe, puis peut-être un peu, il y aurait eu beaucoup d'interrogations au sein de la direction, mais je ne pense pas que le Canadien est sorti de là nécessairement. Parce que là, il y a des adversaires beaucoup plus prenables qui s'en viennent, des équipes moins fortes. Et si jamais ça se soldait par une série de revers contre Pittsburgh, contre Ottawa et Détroit, je pense que toute l'ambiance qu'on avait il y a 4-5 jours à peine, là, ça reviendrait avec une force très vive.
Oui, moi, je pense qu'en fait, on a repoussé l'heure des décisions, mais elle risque d'arriver, en fait, dès la semaine prochaine. Moi non plus, je pense pas qu'il y aurait eu un congédiement. En tout cas, je pense que Marc Bergevin, ça aurait vraiment été déplacé qu'il se départe à ce moment-ci de Claude Julien. Là. Écoute, il t'a souligné Drouin et puis Byron, mais il manque aussi Mété, puis là, il va manquer Kotkaniemi. Moi, en fait, ce qui me fait beaucoup peur, bon, les trois prochains matchs, je pense que 2-3, c'est très possible, mais après, le voyage de 7 jours, écoutez, là, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, la Floride, le Lightning, Floride, Hurricanes, c'est tout un voyage. Et je pense que le Canadien va avoir besoin de renforts avant de se rendre en voyage. C'est plus facile quand tu es à Montréal, tu rappelles des gars de Laval, ils viennent rapidement. Mais là, ils vont être sur la route pendant presque 3 semaines. Ça va être super difficile. Le Canadien va avoir besoin de profondeur pour aller en voyage. Et présentement, pour moi, il y a 6 ou 7 gars qui sont dans l'équipe présentement, qui sont des joueurs de la Ligue américaine. Et je pense que ça va forcer la main à un échange dans les prochains jours.
Et c'est l'année passée, où il y a 2 ans, que justement, ça s'était décidé durant le voyage du temps des fêtes, où on avait vraiment mis le clou dans le cercueil. C'est il y a 2 ans.
Il y a 2 ans.
Ouais, exactement. Le fameux match à Dallas, où on s'était dit, bon, ben, c'est terminé.
Je me souviens parce que Marc Bergevin a fait une conférence de presse au retour de l'équipe à Montréal, bilan demi-saison. Puis, tu sais, les questions étaient assez dures à son endroit. Puis il est le seul qui disait encore « Oui, j'y crois encore », mais tout le monde savait que bon, il n'y avait pas bien le choix, il fallait qu'il dise ça, mais c'était clair que c'était fini.
C'est sûr que ça va être difficile au classement, mais Alexandre, quand tu dis qu'il y a de quoi qui va survenir la semaine prochaine, donc le test reste à venir, mais tu parles de décision de renfort, puis une des questions auxquelles j'avais songé pour notre discussion aujourd'hui, c'est aimez-vous la façon dont le CH a géré sa crise, parce que au cœur de la séquence de défaites, on a commencé à procéder par obligation aussi, puis par nécessité avec la blessure de Mété, à des auditions sur le flanc gauche à la ligne bleue et en attaque également. On parlera du don plus tard, mais je parle sur le principe même de dire on va étudier tout ce qu'on a à même notre système avant de regarder ailleurs.
Honnêtement, j'ai trouvé que ça a pris bien trop de temps. Si on parle, est-ce que ça a été bien géré, je te dirais à partir de la 8e défaite, oui. Entre la première puis la 8e, un petit peu moins bien.
Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'il se passe avant, Alexandre?
Bien, tout le mouvement qu'on voit présentement là, qui permet à Claude Julien de jouer un petit peu avec son alignement, il ne s'est rien passé. Le seul joueur dans la série de 8 défaites qui est monté, c'est Gustav Olofsson, qui a été un désastre. Mais il n'y avait pas là, de mouvement de personnel. Claude Julien, il pouvait rien faire avec son alignement. Là, au moins, il y a quelques possibilités. Je veux dire, il essaie des affaires en attaque. Là, il peut changer un petit peu les trios. Et,
est-ce que ça t'a laissé sur ton appétit quand même? Parce que tu parles d'une équipe de gars de ligue mineure. Toi, tu souhaites autre chose.
Tu penses à quoi? Moi, je souhaite du renfort. Le Canadien a 12 choix au prochain repêchage, c'est beaucoup, là. Ouais. C'est juste dire, là, une équipe est limitée à 50 contrats professionnels. Et là, dans les 4 dernières années, en incluant la prochaine, le Canadien va avoir repêché 40 joueurs. C'est énorme. Là. La moyenne de la Ligue, c'est 28. Ça en fait, là, à un moment donné, là, des espoirs puis des choix repêchage. Puis j'aimerais voir le Canadien échanger certains choix ou certains espoirs pendant qu'il est encore temps puis que certains de ces joueurs-là ont une valeur. Mais moi, la reconstruction, le Canadien part de bien trop loin. Là. Pour une reconstruction, je ne suis pas du tout partisan de ça.
On est dedans en ce qui me concerne.
Oui.
Là,
mais si on a des perceptions différentes. Beaucoup de gens veulent en faire une, repartir à zéro complètement. Là. Hey, le Canadien, là, des talents là, de premier plan, là, peut-être Caulfield en est un, là, mais il n'y en a pas 42 là,
c'est sûr. Puis écoute, là, ça fait déjà, ce qui est plate, c'est que ça fait 3 années sur 4 que tu ne fais pas les séries. Tu as eu une année où tu as fait les séries, mais ça n'a pas duré durer longtemps. Si tu annonces une reconstruction maintenant et tu annonces que ben on se donne, mettons, encore 3 ans, et là, écoute, financièrement, ça peut faire mal aussi. Tu as moins de monde dans l'édifice, il y a moins de monde qui vont y croire. Donc, tu as décidé d'y aller par un reset, mais là, il va falloir que tu vives avec ton reset. Parce que
si le reset, faire, écoute, on peut en parler 20 minutes, là, mais y a-tu quelqu'un qui pense que le reset, c'était pas une reconstruction?
Je veux dire, ben, c'était moi, pas une reconstruction telle tel qu'on les connaît. Là,
ben, je veux dire, tu rates les séries 3 années sur 4. Là. Je veux dire, tu fais jouer 3-4 recrues dans ton alignement. C'est pas loin de la recette des sénateurs d'Ottawa. Là. Tu dépenses moins, je pense, faudrait que je regarde la masse salariale que des sénateurs.
Ils en ont gardé des vétérans, là, quand même. Là.
Ben oui, moi, mais, moi, mais oui. Pourquoi il faudrait imiter Edmonton puis Toronto, se débarrasser de tous les vétérans, on reconstruit. Faisons ça ceux qui se sont plantés pendant 15 ans. Gardons aucun gars fiable dans le vestiaire. Éliminons Shea Weber. Reconstruis parce que tu gardes Shea Weber, tu dis pas une reconstruction. Pour moi, je sais pas sur quelle planète qu'on est, là, mais je veux dire, on assiste à une reconstruction, une reconstruction avec une équipe qui tente de rester compétitive. Mais c'est quoi une reconstruction telle qu'on la connaît? Une démolition avec un club qui reste dans la cave 10 ans?
Non, mais tu sais, des
vétérans... C'est quoi une reconstruction réussie? Avez-vous un modèle, les gars?
Un vétéran... qui joue sur une troisième ligne puis qui coûte 3 ou 4 millions, normalement, c'est des gars que tu vas laisser partir dans une reconstruction. Tu vas peut-être garder un ou deux éléments, mais les gars qui font plus d'argent, qui font pas partie nécessairement de ton noyau puis qui ont un certain âge, normalement, c'est des gars que tu laisses partir. Et dans les dernières années, on en a gardé quelques-uns là, dans l'alignement. Donc, c'était en tout cas, pour moi, on a essayé de faire un reset. Puis là, il faut vivre avec.
Moi, je te dirais que Ottawa fait une reconstruction. Ouais. Ils ont échangé tous leurs vétérans, leurs meilleurs joueurs. Tu sais, de Eric Carson, puis Mark Stone, peu importe les raisons qui ont conduit à certaines transactions, ils les ont tous échangés, puis ils recommencent complètement à zéro avec un nouveau coach. On verra ce que ça va donner. C'est pas toujours facile. Brandstrom, par exemple, qui est vu comme un de leurs jeunes défenseurs prometteurs. Oups! Ben, tu sais, il va peut-être réussir, mais là, je pense qu'il est dans la Ligue américaine. Ouais, en tout cas, il est allé faire un petit tour dans la Ligue américaine. C'est pas tout le temps évident, mais je pense que là-bas, c'est l'option qu'on a prise. Pour moi, le problème que je vois avec le Canadien à l'heure actuelle, c'est qu'ils n'ont pas foncé à fond. Je pense que oui, ils auraient pu échanger leurs deux vétérans s'ils avaient voulu faire la reconstruction totale. C'était clair qu'ils n'allaient pas le faire parce que Jeff Molson ne parle pas comme ça, ne pense pas comme ça.
Ça aurait peut-être été une erreur aussi.
Mario, c'est quoi l'alternative? Je veux dire, on sait tous que Weber, là, il va aller en déclinant. Quand les jeunes vont arriver à maturité...
On disait ça quand il est arrivé, puis cette année, je veux dire, il n'y a pas personne sur la planète qui ferait Subban puis Weber à l'envers. Là.
Ben, pas cette année, mais dans les trois années précédentes, on pourra discuter longtemps. Mais
on pourrait même discuter d'une autre question. Est-ce que Nashville a échappé sa chance de gagner la Coupe Stanley quand ils se sont débarrassés de Weber? Quand ils l'ont échangé pour Subban? Peut-être ils ont-tu pensé que le gazon était plus vert chez le voisin? Mais je veux dire, au lieu d'avoir un gars qui se promène avec des bouteilles de Rince-Bouche pendant la finale, peut-être qu'il y aurait eu un gars dans la chambre qui aurait dit
Weber est allé combien de fois à la finale de la Coupe Stanley?
La réalité, c'est que
Subban,
c'est Subban qui a fait son talent final.
Il y a eu l'occasion de le démontrer. Il était là quand
il faisait partie du groupe.
Mario, avant la finale, il était un des candidats pour le titre de joueur les plus difficiles. Subban, cette année-là, où ils sont allés en finale, il aurait été un des candidats.
Il était candidat au Trophée Norris.
Ce que je veux dire, c'est que toutes les questions se posent. Puis une couple d'années plus tard, des fois, le portrait est différent quand on le regarde.
Non, puis dans une couple d'années aussi. Dans
deux ans aussi. Parce que tu sais, Mané, c'était rien sur un bord parce que Weber t'a blessé puis t'as pas là pour pouvoir se rendre justice dans l'équation.
Je me souviens qu'à un moment donné, Ovechkin, là, si on retourne là, il y a 5-6 ans, était pas à 100% concentré sur sa carrière. Puis on s'est dit, il est fini, ce gars-là. Puis à un moment donné, la switch est revenue à on, puis il est parti, puis c'est un excellent joueur. Donc, autant, oui, on peut dire que la conversation a changé, mais autant dans 2 ou 3 ans aussi, on peut se dire, hey, Subban, il est redevenu joueur qu'il devait être avec toutes ses qualités, puis l'autre,
elle a tellement changé la conversation. Puis moi, là, je suis pas l'avocat de Marc Bergevin. Là. Je veux dire, je suis pas content quand l'équipe rate des séries 3 années sur 4, là, comprenez-moi bien, mais il y a pas personne qui va le défendre, ce point de vue-là, dans la discussion. Fait que je me permets de l'amener. C'est que, tu sais, il a mangé son pain noir, là, vous auriez dû entendre ma mère quand Subban a été changé, je vous le dis, là. Je pense pas qu'elle y a pardonné encore, puis ils sont nombreux,
elle
là.
Pas tout seul.
Non, mais je comprends qu'il y avait un attachement émotif, mais il reste que, tu sais, quand on dit on le voit pas de l'extérieur, puis on le voit de l'intérieur, ils ont vu quelque chose, eux autres. Ils ont agi. On peut-tu dire qu'aujourd'hui, il a bien agi? On peut-tu dire ça compte tenu de ce qu'on voit des commentaires à New York, puis tout ça? Non, mais... Alors, est-ce que c'est une question qui se pose? C'était une question qu'ils pouvaient même pas se poser là, il y a deux ans. C'était comme un sacrilège.
Non, mais regarde, honnêtement, si on regarde ça, les deux dernières années, je pense que le Canadien a quand même eu la main heureuse là, définitivement dans cet échange-là. Ça, c'est clair. Mais tu sais, pour revenir là, à toute la question de la reconstruction contre laquelle je suis totalement opposé, puis c'est pas trois ans. Si on part en reconstruction, les amis, là,
j'ai dit trois ans
à l'état présentement de l'organisation, là, c'est un gros cinq ans facile. Puis là, ça veut dire qu'on raterait les séries peut-être 8 ans sur 9. Là. Et deuxièmement, tu sais, le Canadien, là, il va falloir qu'il prenne une décision, c'est avec quel groupe d'âge il va gagner.
Mais c'est ce qu'on a dit dans les derniers podcasts.
C'est ça, mais tu sais, je peux comprendre que les Bruins, oui, c'est vrai, les Bruins sont divisés en trois, mais c'est vraiment l'exception parce que la plupart des clubs qui gagnent, là, ils ont un groupe de joueurs du même âge. Et c'est pas évident pour le Canadien. OK, clairement, je pense pas. D'abord, ils sont juste deux, là, mais le groupe Weber-Price, tu sais, c'est vraiment pour moi à part. Puis Petrie, bon, peut-être va devenir joueur d'un, mais après, est-ce que tu gagnes avec ceux qui ont entre 24 et 26 ans présentement ou ceux qui ont en bas de 22 ans. Mais tu sais, le groupe en bas de 22 ans, là, présentement, là, t'en as pas de joueurs étoiles.
Le problème, c'est
là,
que ton GM m'arrête pas de dire, moi, les fenêtres d'opportunité, je crois pas à ça. Tabarouette.
Ouais.
C'est quoi le but? Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? Je veux dire, il faut que tu vises, à un moment donné, avec le groupe d'âge que t'as, de tes joueurs, puis de tes meilleurs, puis tu dis, OK, notre fenêtre, là, c'est, mettons, dans 2 ans, ou c'est maintenant, ou... Quand tu dis, non, nous autres, il n'y a pas de fenêtre. On gère de même, puis...
Ben, il croit ouais, ça, Jérémy. Moi, j'ai déjà fait une entrevue avec lui en 2015, là, quand il y avait un solide groupe là, avec, tu sais, Pacioretty, Gallagher, là, qui prenait de plus en plus de place dans l'équipe. Subban, bien sûr, Price, qui était encore plus jeune. À ce moment-là, il croyait à la fenêtre d'opportunité.
Ben, elle était là.
Ça, c'était clair, il était là.
Ils sont allés en finale de conférence.
C'est ça. Mais là, ils l'ont raté. Là. Alors là, ça a été plus difficile. Mais... moi, je veux pas revenir incessamment sur Subban, mais quand même, je veux dire mon mot sur tout ce qui s'est dit. T'sais. Je pense que quand l'échange s'est fait, tout le monde était d'accord sur à peu près une chose, c'était de dire que le Canadien serait gagnant à court terme parce que Weber était plus vieux, donc il fallait qu'il produise rapidement. Puis Subban, étant plus jeune, il allait être bon plus longtemps. Bizarrement, c'est le contraire qui est en train de se produire. Alors Subban a eu beaucoup d'influence. Je sais que c'est facile, là. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Le fait que le Nashville soit allé en finale de la Coupe Stanley, chose qu'il avait jamais fait avant, il y a bien des gens qui disent oui, Subban, n'importe qui d'autre s'est arrêté pareil. Moi, je crois pas à ça. Je pense qu'il a contribué à cette équipe-là. Puis la preuve, c'est qu'il a été candidat au trophée Norris. Donc, je suis probablement pas le seul à penser ça. Et il y a eu du succès les deux premières années. Il y a aucun doute dans mon esprit que les Prédateurs sont les grands gagnants de la transaction pour l'an 1 et l'an 2. Je mets match nul pour l'an 3, l'an dernier, parce que c'est bien beau. Oui, il a pas mal joué Weber. Mais l'idée, c'était d'amener le Canadien en série, puis ça a pas marché.
Mais gagnant juste parce qu'il était blessé.
Mais l'an 4, dans le moment, oui, c'est clair que le Canadien gagne cette année-là. Puis je regarde aller Subban, puis c'est un peu décevant.
Mais au-delà
en fait, c'est
de
très
ça,
décevant de
c'est
le
sur le pourquoi, puis c'est vrai, mais c'est juste parce que les performances de Weber m'étonnent là, cette année, là, d'entrée de jeu. Là, je m'attendais pas à ça. Non, je m'attendais pas à ce qu'il en donne autant. Puis parce que ça n'a pas été un début de saison fulgurant pour Weber. Puis on s'était dit, c'est le premier été depuis sa grosse blessure qu'il a eu tout son entraînement, puis ça s'est pas manifesté tout de suite au début. Mais moi, c'est sur le pourquoi ils l'ont échangé. C'est pas sur Subban,
pourquoi les Prédateurs ont l'échangé?
Non, pourquoi? Ben, les Prédateurs aussi, pour des raisons financières et autres, là, ils veulent gagner la Coupe eux autres aussi. Là. Ils sont pas des partis d'un gars qui pensait qu'il allait être instrumental. Comme Weber. S'il avait pensé à cette époque-là que Weber était le gars de la Coupe, il l'aurait gardé, puis il a même affaire avec...
Ah, puis ils ont poursuivi des chaudrons, là, by the way. Là. Un des deux joueurs, qui est un Québécois, là, Jérémy Davies, là, ce gars-là va probablement être top 4 là, dès l'année prochaine. Là,
T'es optimiste?
Non, pour vrai. Ouais, non, mais... Vraiment, c'est un joueur qui a du potentiel, là, Jérémy Davies.
Il y a une chose que je voudrais dire,
Il est 23 ans, puis il joue pas dans la Ligue nationale encore. Là.
Non, mais c'est quand même leur top prospect à la défense. Ça va être intéressant de voir. Okay.
Tu parlais de ta mère qui était déçue de la transaction.
Mais tu me laisses finir juste sur le pourquoi, Jérémy, parce que puis ça va expliquer, puis j'en ai déjà parlé en dehors des ondes avec Philippe. C'est une discussion qu'on n'a jamais amenée en ondes. Il y en a qui peuvent citer, ben je pense, en tout cas, pourquoi Jeff Molson a encore confiance en Marc Bergevin? Tu sais, c'est une question qui se pose, puis il te l'a dit en entrevue, puis t'avais même été étonné de voir que ce lien-là était fort. Lui, là, il a vu un DG qui a embauché, qui a vu des affaires qui demandaient un certain panache, pour ne pas dire un peu de front, puis d'audace à faire échanger, puis que Subban, quand ils l'ont échangé.
Ouais,
mais si eux, là, je donne le bénéfice du doute à tout le monde. Si eux ont identifié qu'il fallait qu'ils l'échangent, puis que le propriétaire s'est donné un an pour acquiescer à ce que Bergevin voyait, parce qu'ils l'ont signé puis ils l'ont gardé un an. Oui. Je dis, hey, finalement, Marc, t'as bien fait. Puis là, les faits, mettons que Jeff puis Marc se retrouvent au septième, puis ils jasent, puis ils regardent le New York Post en fin de semaine. Jeff Monson ne pense pas que Marc Bergevin a fait une gaffe. Là, je pense pas. Là. Et avec Gal Chenyok, qui est encore sur le marché des transactions, je pense pas que Jeff Monson, il se dit, Marc, je te le pardonnerai jamais, celle-là. Ouais. On pourrait toujours discuter de Pacioretty. Y a-tu des arguments sur Pacioretty qui était la source de la mauvaise attitude?
Ça, Mario, c'est une façon de regarder ça. Puis, quand on analyse ça, ça se justifie très bien. Mais, tu sais, en analyse finale, t'as un club qui participe pas aux séries éliminatoires 3 fois en 4 ans. Ça aussi, il faut que ça rentre
parce
dans l'évaluation.
Parce qu'ils ont
Jeff
entrepris
Monson.
Une reconstruction. Quand ils ont pesé sur reset, qu'ils ont éliminé Flanagan. Les gars, je vais vous le répéter. Le DG aimait pas son club. Il aimait pas son capitaine. Il aimait pas son défenseur.
Ils sont allés en finale de conférence avec le maudit club-là.
Ils ont perdu. Ils sont effondrés comme des pleurotes.
Oui, parce que le meilleur joueur a été blessé.
Ben oui, ça prenait rien que ça pour les ébranler. Regarde les pingouins aller, c'est ainsi.
C'est une équipe qui a de
l'allure. N'importe quel club de football qui perd son corps arrière vedette, regarde, ils vont s'effondrer.
C'est ça
l'affaire de Philadelphie.
C'est une équipe, là, qui sait qu'est-ce qu'elle fait, là? Quand elle se rend en finale de conférence, puis elle dit, on perd notre meilleur joueur, puis on a perdu cette série-là, il commence pas à tirer à boulet rouge sur le club, puis commencer à une reconstruction ou un reset, appelons-le ce qu'on tu veux.
Mais j'en reviens pas qu'on s'ostine là-dessus, pour vrai. Parce que ça fait des années, puis on l'a d'en face, je sais pas qu'est-ce que.
Mais Mario, l'affaire que je veux dire, c'est que.
Il pensait qu'il gagnerait pas avec ce club-là, puis son proprio le croit. Son proprio l'a cru, puis c'est pour ça qu'il est encore là.
Mais,
sinon,
mais
il aurait sauté,
qui nous
fait longtemps.
Plus que ce que tu vois. La réalité, c'est quand il y avait ce club-là, on s'est rendu en finale de conférence, puis depuis ce temps-là, tabarouette, on se tourne les pouces, puis on fait rien. Maudite affaire, c'est ça la réalité, en bout de ligne. Mais pour revenir sur ton histoire...
Ils font pas rien, ils reconstruisent. Ils font jouer des recrues, les
Mario,
boys, puis le proprio consent à ça.
Reconstruit quand son noyau a 25 ans, puis sont en finale de conférence, puis ils ont une fenêtre d'opportunité
de
gagner.
On t'entend pareil.
Mais c'est pas
parce que t'es pas d'accord que on va.
Non, c'est juste parce que j'essaie de parler depuis tantôt puis je peux pas. Fait que
ben
là,
écoute, c'est parce que je finis mon
Italien.
Idée parce que
on parle plus fort pour essayer d'avoir plus.
Mais non, mais
plus
je veux dire,
plan.
Un club qui eux autres là, ils ont éliminé, ils se sont sortis de l'équation, ils tentent de rester compétitifs, puis là ben ils reconstruisent. Puis Jeff Monson dit publiquement on va être bon dans 3-8 ans.
Ça
je
fait
dis, faut-tu chanter un tableau
de reconstruire une équipe dont noyau a à peu près 24-25 ans et qui vient de se rendre en finale de conférence et qui perd parce que son gardien numéro 1 est out. Puis là, tu dis, on reconstruit. Ça n'a pas de bon sens. Ça tient pas debout. Je veux dire, je suis tout seul là, autour de la table à penser ça. Parce que je suis tout seul à penser qu'un club qui,
y a
dont les meilleurs joueurs...
Il y a peut-être un ou deux cricket qui sont d'accord.
En 24-25 ans,
as-tu des bruits de cricket?
Il se rend en finale de conférence, puis il entame une reconstruction. Est-ce que ça fait du sens
pour
vous?
Moi, je vais vous dire comment je vois la situation. OK? Marc Bergevin est arrivé avec le Canadien en 2012, puis il a apporté un vent de fraîcheur. Il a pris des bonnes décisions dès son arrivée. Souvenez-vous, il a réglé le cas de Scott Gomez, puis bon, il a embauché un entraîneur qui a fait un bon travail pendant 5 ans, puis... Tu sais, la machine a recommencé, les gens ont repris confiance avec le Canadien. Tout ça, en Canadien, tout ça a trouvé son apothéose, Jérémy, comme tu dis, en 2014, avec la participation à la demi-finale de la Coupe Stanley. Maintenant, depuis ce temps-là, il y a un pattern avec Marc Bergevin, c'est qu'il y a certains étés où il n'agit pas assez, puis il en paie le prix. Alors, la fameuse reconstruction dont tu parles, Mario, c'est pas l'été qu'on vient de produire, c'est l'été avant.
Mais c'est la suite, en ce qui me concerne. Parce que si tu veux accélérer,
mais c'est l'été,
t'embauches à haut, tu fais semblant de l'embaucher, tu envoies le signal au monde que t'essayes, mais dans le fond, tu continues d'accumuler
c'est ça, mais l'été dernier, il a rien fait. Là. Il a pas changé grand-chose. Bon, on peut dire Chariot, là, peut-être, là, mais il a perdu Ben. Puis bon, en tout cas, on verra bien si Chariot, ça va continuer comme ça. Mais il avait fait la même chose en 2015, après l'échec en 2015. Il n'y a eu presque pas de changement à l'été 2015. La saison 2015-2016, ça a été un désastre. Là, un peu de succès l'an dernier. Cet été, très peu de mouvement encore une fois. Un de ses gros défis, c'était d'aller chercher un gardien substitut. Ça a été un échec. Et bon, là, on appelle un jeune. On espère qu'il fera la job. Tant mieux si c'est le cas. Mais encore une fois, on paie pour un été qui a été difficile. Alors, c'est pour ça que quand on analyse le travail de Marc Bergevin, je trouve que c'est difficile à quelque part à analyser parce qu'on voit le meilleur, belle transaction, Pacioretty, belle transaction, aucun doute là-dessus, il va chercher Suzuki, Tatar et la surprise, c'est un mauvais contrat qu'il obtenait, puis le mauvais contrat s'est transféré en atout offensif de premier plan, bravo, il a fait quelques autres acquisitions qui ont été judicieuses, mais c'est qu'il y a un manque de régularité, puis je trouve qu'on sent pas tout le temps la progression du club, une équipe dont la reconstruction, la réinitialisation, la relance, appelle-le comme tu veux, la phase 2, peu importe, il faut qu'il y ait une progression qui est à mon avis, soutenu. Ouais. L'an dernier, il y a eu une progression avec le Canadien. Oups, cette année, là, on sent que ça va être très difficile de revenir avec 96 points comme l'an dernier. C'est ça qui est inquiétant pour l'organisation. Et c'est pour ça que, tu sais, quand tu regardes le travail de Bergevin, il y a encore beaucoup de questions, à mon avis, qu'il faut poser.
Moi, je pense que ce qui a rendu nécessaire là, le reset, là, c'est que le pipeline là, dans les Ligues Nord, il était à vide. Là. C'est ben, ça le problème. S'ils avaient, c'est la source du problème parce que si le Canadien avait bien. Ben, c'est ça, exactement. Mais si le Canadien avait bien repêché en 2011 puis 2015, il y en aurait eu là, des options. Là. Puis là, tu aurais été en meilleure position de négocier que de donner Sergachev pour avoir Drouin, par exemple. Tu n'aurais pas été peut-être obligé d'aller chercher un attaquant de premier plan parce que tu en aurais eu un dans tes mineurs. Mais écoute, il n'est rien monté pendant genre 5 ans. Il n'est presque rien monté dans le grand club.
Attends, tu peux te mettre à monter en grade.
Non, mais je veux dire, il a été forcé. Je veux dire, où est-ce que tu voulais qu'il aille prendre du renfort? Il a été obligé d'aller à l'extérieur pour la même raison que présentement, encore, il va être obligé d'aller à l'extérieur parce que son système dans les ligues mineures, ben, il n'est pas vide. Mais les meilleurs talents de l'organisation, ils jouent même pas dans l'organisation. Romanov est même pas sous contrat présentement. Puis Coffey non plus est pas sous contrat. C'est les deux top espoirs, supposément, là, présentement. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il est mal pris. Il est forcé, je veux dire, de faire des transactions parce que ça pousse pas assez fort par en bas. C'est ça le problème.
Le seul élément que j'ajouterais à ton propos, c'est que la seule explication logique que j'y vois, puis l'offre hostile à haut, on est tous d'accord que c'était pas ben ben hostile.
C'était pas assez hostile.
C'est que tout ce que tu dis, là, c'est pas un innocent. Il voit.
Ben oui, c'est.
Il voit. Je veux dire, je pense pas que nous autres, on a appris rien à Bergevin aujourd'hui, là. Puis quand tu vois ça, puis tu sais que ça va être long, tu fais quoi? Tu biffes ton club l'été pour faire des séries, pour pêcher plus haut, pour te faire sortir en première ronde? Ou tu fais semblant de faire des moves, tu fais une offre hostile symbolique pour convaincre le public que tu travailles fort d'un coin, puis tu continues d'empiler des choix? Fait que moi, c'est ma perception. Ajoutez, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais puis je fais pas l'apologie de Marc Bergevin parce que ça soulève un doute. Je veux dire, l'ambiance n'est plus la même que quand il est arrivé. Parce que veux, veux pas, il y a de l'usure de l'effet de Montréal. Et même s'il prend des bonnes décisions, je suis convaincu qu'il dégage pas même aura auprès de tout le monde dans son organisation que quand on l'a embauché. Et ça, ça peut poser problème. Mais moi, je prétends qu'on est encore dans le processus continu avec l'idée d'être compétitif puis autour de chef.
Il y en met de côté là, des atouts. T'sais, 12 choix au repêchage l'année prochaine. Hey, t'en rentres là, des joueurs dans ton organisation. En fait, t'as même pas assez de contrats professionnels pour toutes les mettre sous contrat.
Peux-tu faire un beau pitch de vente avec ça dans le business de la vente de l'espoir? Un repêchage à Montréal en plus?
Absolument.
Les gars, c'est...
Non, je suis d'accord, mais...
C'est planifié.
Oui, mais Mario,
le repêchage, s'ils survivent cette année, même si cette année, Mario, c'est tough, ils vont avoir un repêchage, ils vont présenter le nouveau, Caulfield va arriver.
Non, mais moi, c'est mon point. C'est, si t'en as 12 l'année prochaine, puis t'es à Montréal, puis mettons qu'il les garde des 12, je veux dire, fais de la place. Échange là, des Jake Evans puis des Luca Vedemo. J'ai aucune idée de ce qu'ils valent, honnêtement.
Mais là, c'est ça.
Non, mais je veux dire, à un moment donné, il y en a d'autres équipes qui en ont des Jake Evans puis des Luca Vedemo. Là, pis, je veux dire, le Canadien, il a besoin de profondeur. Maintenant, s'ils veulent faire les séries. Sinon, je veux dire, écoute, s'ils en perdent, mettons, 6-7 dans les 10 prochaines, on fait quoi?
Tu penses à qui, mettons? Taylor Hall?
Taylor Hall, il y a des rumeurs présentement contre Jean Quinn Hughes puis Johnny Gaudreau. Le Canadien, il n'y a pas de Quinn Hughes puis Johnny Gaudreau, là, hein?
J'avais manqué ces rumeurs-là.
Mais non, moi, je pense des joueurs qui sont plus intéressants. On a beaucoup parlé de Gatis Bear qui joue peu, mais tu sais, il y en a là, des joueurs de ce style-là. À la limite, des gars comme Nicolas Beaudin qui sont à Chicago. Je veux dire que c'est un choix de première ronde qui est échangeable contre un joueur de centre équivalent. Il y en a là, des joueurs qui sont disponibles quand même dans la ligue. Là.
Mais tu sais, quand tu as dit ça, là, échanger Jake Evans, je sais pas quoi, j'ai pensé à ce genre d'échange-là, genre Christian Thomas contre Danny Christo. Ben,
ils ont eu du succès pour des trucs comme ça. Non, le Canadien, là, quand même, ils sont allés chercher Kulak dans des échanges.
C'est vrai.
Si tu regardes les échanges depuis trois ans, il y en a eu une coupe, mais je veux dire, il y en a de besoin de profondeur. Écoute, il y a trop de gars de la Ligue américaine dans ce club-là. Là.
Charles Hudon, est-ce que il a eu sa chance puis il ne l'a pas saisi?
Ben, c'est vraiment dommage pour Charles Hudon parce que cette opportunité-là, c'était une opportunité en or. Il savait que Byron ne reviendrait pas avant un mois. Il savait que Drouin ne reviendrait pas avant deux mois. Si Hudon en avait donné moindrement dans ce passage-ci, ben peut-être qu'il reste pour de bon dans la Ligue nationale. Et le Canadien avait tellement besoin d'un petit spark offensif, quelqu'un qui pouvait leur en donner un petit peu. Malheureusement, il a frappé quelques poteaux, il a été malchanceux, mais en bout de ligne, ça n'a pas fonctionné. Là, il se retrouve à la limite des matchs qu'il peut jouer avant de devoir être soumis au ballotage. Et là, le Canadien prend une décision et finalement, ben c'est pas lui qui fait le voyage à Pittsburgh. Donc, il n'est pas là. C'est triste. Puis moi, je voulais que le Canadien lui donne une chance. Puis j'ai trouvé que cette fois-ci...
Ils en ont eu une vraie chance. Là, quand même.
La meilleure chose qui aurait pu lui arriver, Charles Hudon, ça aurait été d'avoir une chance avec une autre organisation dès le début de l'année. Partir au camp d'entraînement avec une autre des équipes de la Ligue nationale. Tu sais, à Montréal, les dirigeants, il y avait déjà leur opinion sur lui. C'était fait, c'était cristallisé. Ouais. Il a eu sa chance par défaut, parce qu'il y a eu des blessés, puis tu l'as dit tantôt, Alex, il y avait personne
pour arrêter. Mais il n'y a pas trouvé le contraire non plus.
Non, mais est-ce que tu peux, est-ce que lui, là, à sa décharge, puis tu sais, je suis pas en train de dire que c'est qu'il va, avec une autre organisation qui aurait mérité un poste, peut-être pas. Mais jusqu'à quel point sa confiance pouvait être optimale avec le Canadien? Il savait, lui aussi, là, que l'entraîneur, le directeur général, il n'y a pas une dose énorme de confiance en lui. C'est plus difficile. Moi, je pense que ce gars-là, il aurait eu avantage d'avoir un regard frais, t'sais, d'être observé par quelqu'un qui serait parti sans préjugés sur lui, sans passer. Est-ce que ça aurait marché? On ne le sait pas. Peut-être que ça n'aurait pas marché, mais je pense que ça aurait
été... Il était sous mon balotage, lui, en étant cédé. Oui. Ça a l'air que personne ne veut lui donner cette chance-là.
Il est presque au salaire minimum en plus. Là,
fait que... Non. En tout cas, c'est j'étais son agent, je lui dirais, Charlie, la Suisse, ça t'intéresse?
Il est rendu là, clairement.
Il y a des beaux dollars à faire pour un gars de son talent dans le hockey européen.
Il y a une belle vie à faire. Sauf qu'avant, il faut que tu fasses le deuil de ton rêve.
Ça doit être dur.
Ça doit être terriblement dur parce que lui, il ne l'avait pas fait, son deuil. Là.
Non, mais tu sais, quand tu passes au balotage puis que tu es presque au salaire minimum, c'est plate. Là. Mais tu peux t'accrocher, mais entre la Ligue américaine et l'Europe, pour lui, je pense que l'Europe est une meilleure.
Il faudrait qu'il appelle des gars qui sont allés en Europe et qui ont vécu des expériences extraordinaires.
Peut-être que s'il avait juste passé toute l'année avec le Rocket, puis il avait continué d'accumuler des points, il y a peut-être une équipe qui aurait pris une chance sur lui pour l'année prochaine.
Peut-être.
Vous avez parlé de Kotkaniemi, j'imagine, dans le dernier podcast de vendredi. Je sais pas qui était, Jérémy, tu l'animais.
Félix, les trois là.
Et le verdict, est-ce que c'était que ça méritait une suspension, les gars, pour vous autres?
Ça méritait très certainement d'être étudié. Et moi, ce que je disais, puis tu sais, c'est encore une fois le manque de rigueur de la Ligue nationale avec les blessures à la tête. Puis là, je comprends que c'est pas la tête qui a été le point d'impact qui a été mis en échec. Il en reste pas moins qu'au bout du compte, c'est la tête qui a encaissé. La façon dont on l'a mise en échec, il a basculé, il s'est retrouvé. Pour moi, ça, il faut pas accepter ça dans la Ligue nationale. Il faut qu'il y ait une politique de tolérance zéro. Puis on est à des années-lumière de là. La Ligue regarde encore pas ça. Regarde le geste de Kotkaniemi, il n'y a pas eu d'audience.
Encore une fois, il y a un joueur du Canadien qui se fait frapper d'une façon vraiment limite, puis il n'y a pas de réaction.
Mais tu sais, moi, un
affaire. On n'a pas personne pour réagir non plus, mais c'est sûr que des fois.
Je ne demande pas à un gars d'aller dropper les gants, mais saute dans le tas. Je veux dire, saute sur le gars. Moi, je te dis.
Symboliquement.
Mais oui. Tu sais, je veux dire, tu peux pas rester là à regarder. Es-tu correct?
Mais tu sais, moi, je pense que la solution, écoute, je ne sais pas si on va l'avoir de notre vivant, là, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question sur les dimensions de la glace puis le nombre de joueurs qu'il y a sur la glace. Hey, on joue sur la même grandeur de glace qu'en 1910, quand les gars faisaient 5 pieds. Ouais. Aujourd'hui, les gars. Non, mais pour vrai, la moyenne, c'est 6 pieds 3. Il y a encore 5, 6 gars avec le goaler sur la glace. Ou bien ils agrandissent les glaces, ou bien ils réduisent le nombre de joueurs. Mais remarquez bien qu'à 4 contre 4, là, puis encore moins 3 contre 3, là, il n'y en a jamais là, de coups comme ça. Là. Jamais. Là,
c'est drôle parce qu'en Europe, on songe à réduire la dimension des glaces pour s'adapter à ce qui se passe en Amérique du Nord.
Je comprends pour le spectacle aussi. Je pense que c'est excitant. Là, ça va très, très vite. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, il y en a plein là, des sports qui ont changé leur règlement. Oui. Puis, regarde, je pense que ça va prendre du temps. Mais il y a plein de sports qui ont changé leur règlement. Surtout dans les sports de contact. Et à un moment donné, il va vraiment falloir se poser la question. Ça n'a pas de bon sens qu'on ait les mêmes dimensions qu'en 1909.
J'amenais Kotkaniemi pas pour en reparler. J'ai eu un peu ce sentiment-là. Sur le coup, t'aurais envie que quelqu'un règle le cas, mais ça, c'est le réflexe d'il y a 20 ans, puis la Ligue n'est plus là. T'espères qu'il compte un but, lui faire payer le prix, mais qu'est-ce que tu veux? Mais ça m'a surtout fait penser au développement du joueur. Ça vient mettre une pause dans un développement qui, à mon avis, était mal monitoré ou était mal guidé. Pas mal monitoré. Je pense qu'on le conseillait bien. Je pense qu'on lui donne des bons conseils. On fait du bon vidéo coaching. Je pense qu'il joue pas à bonne place. Fait que je sais pas si ça rouvre la possibilité que t'avais déjà émise, Alexandre, qui a joué championnat junior avec la Finlande à son retour de commotion, qui a joué à Laval, mais je pense qu'il va falloir qu'il fasse comme Poehling fait en ce moment, puis qu'il mange ses croûtes, parce que le Canadien avait tellement besoin de l'espoir qui animait dans leur processus qu'ils l'ont fait jouer dans la Ligue trop vite, trop longtemps, à mon humble avis.
Le problème, en fait, c'est on ne sait même pas s'il va être prêt pour la fin décembre. C'était tout un impact. Là.
Absolument.
Puis je regarde, il y en a des joueurs qui ne viennent pas. Il y a le jeune André.
Au moment où il jouait mieux.
Mais tu sais, comme le jeune André Slapierre, là, qui est vraiment un espoir très important pour le prochain repêchage, là, on le voit voyait beaucoup dans le top 5. T'sais, Andrix Lapierre, il y a eu deux commotions dans le mois et là, il ne joue plus. Là. Il n'est même pas dans l'entourage de l'équipe. Il se passe juste rien. T'sais, ça peut être très, très long. Là. Une commotion, la force de l'impact qu'il y a eu, ça peut être très long.
Puis là, ce qui est plate, là, c'est que ça risque de se transformer en saison catastrophique pour Jesperi Kotkaniemi. Au début, là, en, le 15-20 octobre, ouais. Là, on se disait ça peut être une saison difficile. Là, c'est plus de ça qu'on parle. On parle d'une saison catastrophique où il ne progressera pas du tout. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais il y a des chances. Parce que s'il est absent longtemps, déjà, il est un petit peu en retard sur les autres. Déjà, Marc Bergevin avait parlé d'une blessure qu'il traînait. Là,
il va perdre son conditionnement physique.
Ben,
il va perdre sa forme.
Il va falloir qu'il retrouve ça. Puis là, on sait que dans la deuxième moitié de saison,
pour en avoir vu plein là, des jeunes, parce qu'il est encore jeune, il y a 19 ans, là, pour avoir des kids de cet âge-là à peu près, j'en ai vu plein là, des jeunes revenir au jeu avec des commotions cérébrales. Puis je m'excuse, mais dans les premières semaines, tu ne joues pas pareil. Puis il disait, chaque fois qu'il va avoir un angle mort, il va se revirer de bord, il va avoir peur. Ça va être dans la fin de la saison. Il y a de plus en plus de mises en échec. Il n'est pas sorti du bois.
La source d'espoir ultime, ben, vous avez peut-être d'autres exemples rapidement avant qu'on accueille notre invité. On a un invité aujourd'hui au podcast que j'ai bien hâte d'amener, c'est Patrice Bergeron. Moi, je pensais la carrière que ce gars-là a connue après quoi? Deux commotions majeures, je pensais qu'il jouerait pas
Mais écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'honnêtement, on doit dire, quand on a commencé à changer les règlements sur les coups latents, souvenez-vous combien de fois on voyait des gars recevoir des doubles échecs et la tête dans la bande. On en voit moins. Je pense que la blessure, même si selon moi ça méritait d'être revu, c'est quand même pas un geste où il a fait exprès pour le blesser à la tête. Donc, je trouve qu'il y en a moins qu'il y a 5, 6, 7 ans.
On voit plus de Scott Stevens, là, ça c'est clair.
Il y en a moins, mais il devrait en avoir encore moins.
Encore moins, forcément. Nous sommes en pleine sortie de zone. Votre balado avec la presse et le 98.5 avec Jérémy Filosa, Philippe Quentin, Alexandre Pratt et la portion invitée des gars nous amène à nous déplacer en Allemagne, où il est assez tard, quoi qu'on est lundi, mettons qu'on est samedi ou dimanche, il est assez tard pour avoir commandé une bonne bière allemande, j'imagine. Et nous y retrouvons l'ancien entraîneur de la Ligue nationale du Canadien, des Patriotes à l'université. Bref, il n'a plus besoin de présentation, nul autre que notre ami Clément Jaudouin. Salut Clément!
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien.
Ouais. Merci. Alors Clément, est-ce que tu as appris à commander une bonne bière fraîche en Allemagne depuis que tu es là? Toi qui es là depuis quelques années déjà, là.
De ce fait, je commence ma troisième année. J'avais commencé à Berlin il y a 3 ans. J'étais là un an et demi. Ensuite, je me suis retrouvé avec Munich la deuxième moitié de saison. Et je continue une troisième année avec le Red Bull de Munich dans la Ligue allemande. Fait que, je me disais que ça faisait partie de ma retraite. Donc, je me dis que c'est une retraite intéressante qui me fait vivre autre chose, complètement différent. Et dans un contexte de hockey quand même idéal. Je veux dire, la Ligue allemande, c'est 14 équipes. C'est un circuit professionnel. Et actuellement, on joue dans un autre championnat. On appelle ça un championnat parallèle qu'on appelle la Ligue des champions. Et puis, on a commencé la Ligue des champions avec 32 équipes. Maintenant, on est à 8. La semaine passée, on est allé jouer en Suède. On était encore en finale. Dans les 8 dernières équipes font partie de ce championnat-là. Donc, c'est les équipes de Finlande, Suède, Tchèque, Biélorussie. Selon le classement allemand, tu as 5 équipes de la Suisse, 5 équipes de la Finlande, 5 de la Suède, 3 de l'Allemagne. C'est réparti un peu. La France est représentée, l'Italie. Et ensuite, c'est réparti dans 8 poules de 4. Tu dois franchir le premier pool, le deuxième pool. Et la semaine passée, on s'est retrouvé en Suède, mais ce qui est arrivé à notre entrevue, c'est qu'on a perdu nos deux gardiens, notre premier gardien et deuxième gardien. On s'est retrouvé avec notre troisième gardien et on a eu un petit pépin, on s'est fait perdre 5-1. C'est 2 matchs au total des points. Et demain, Drew Garden revient nous visiter chez nous. Donc, ils ont une avance de 4 buts. Il faut rattraper 4 buts.
Clément, c'est Philippe Quentin. Oui. Ça va bien?
Oui, bonjour Philippe. Très bien, merci.
Oui, Clément, est-ce qu'il y a beaucoup de monde à ces matchs-là? Est-ce que vous attirez des foules importantes comme à Munich, à Berlin, à Djurgården?
À Munich, c'est une arène de 5500, c'est 5500 personnes. Tu vas à Berlin, c'est 14 000 personnes. Tu vas selon la grandeur de l'arène.
Et c'est plein?
C'est plein. Les gens sont fanatiques. N'oublie pas qu'en Allemagne, il y a une ligue professionnelle de basketball, il y a une ligue professionnelle de handball, professionnelle de volleyball féminin. Handball, les joueurs font 200, 300, 400 000 euros par année. C'est la meilleure ligue au monde. Et c'est plein partout. D'accord? Au hockey, il y a du monde. Oui, on n'est pas le premier sport, on est peut-être le troisième sport parce que le handball est quand même très populaire. Mais le hockey est quand même en effervescence. Je veux dire, ça se développe, ça se... ça grandit. Je veux dire, il y a plus de joueurs, il y a plus de gens qui veulent jouer. Comme à Munich, actuellement, on joue dans un aréna qui était l'aréna olympique où il y avait la boxe. Donc, c'est notre aréna, c'est 5500 places. Mais c'est plein. C'est 5500, on ne peut pas en mettre plus. Mais actuellement, à Munich, il se bâtit un aréna de 12, une nouvelle aréna qui va être prête dans 2 ans, 12 000 sièges avec 3 autres surfaces. Donc, c'est 4 surfaces d'acier. Ce qui va en arriver, c'est qu'ils veulent voir au moins 400, 600 jeunes patiner, que ce soit la relève du hockey. Je veux dire, oui, on a un hockey mineur qui est à Munich, mais c'est pas assez grand. Il y a juste 2 patinoires. Fait que c'est pas assez. Oui, le hockey est populaire, d'accord, spécialement au sud. Mais tu vois, à Cologne, il y en a un là de 18 000 places. Ça fait 12, 13, 14 000 personnes par match. Nuremberg, c'est 5 000 par match. Je veux dire, les gens suivent ça, c'est suivi. D'accord? 14 équipes, et ensuite, tu as le principe des 7, 8, 9, 10 battent dans un 2 de 3 après la saison régulière, et ensuite, on s'en va dans un série 4 de 7, un 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, et ça avance. Et donc, actuellement, on a un jeune, John Peterka, qui joue avec nous présentement, qui a 17 ans, qui normalement devrait être repêché dans la Ligue nationale l'année prochaine. On a un autre, hier on jouait contre Munich, il y en a un autre, Schutz, lui aussi va être repêché dans la Ligue nationale. Donc, il y a quand même des talents, OK, il y a des talents. Hier, s'il n'y avait pas 40 scouts, il n'y en avait pas. Donc, je veux dire, du hockey, il y en a partout. Faut quand même ouvrir ses horizons, je veux dire, pour regarder un petit peu ce qui se passe autour à l'extérieur. Et ça joue, ça pratique, puis il y a du monde, puis il y a de l'ambiance. Ça, on peut dire que au hockey allemand, des fois, tu penses dans une discothèque, parce que les fans sont derrière leur équipe.
Clément, tu seras intronisé au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Oui.
Comment reçois-tu cet honneur et quels sont tes plus beaux souvenirs de cette Ligue, de ton séjour dans cette Ligue, tes séjours?
Est-ce que c'est on introduit parce que je suis vieux?
Non.
Je pense que
tu as un parcours pas mal unique, Clément.
Non, comment je dirais ça? Je pense que c'est une question de ténacité, assiduité, peu importe si j'ai un junior, je me relève, peu importe la ligue, on continue. La Ligue junior majeure a été quand même un excellent tremplin, une très belle école de vie. Je me dis, la Ligue junior majeure, tu peux toucher à tout, OK? Tu es un coach, tu peux être un directeur au niveau éducatif, il y a tellement de choses à faire. Tes rencontres de pension, rencontres de professeurs, rencontres avec les propriétaires, rencontres avec les parents, rencontres avec les enfants. Donc, il y a tellement une panoplie de travail différent que tu peux encercler. Moi, je suis toujours coaché, c'est peut-être 10%, c'est 90% qui se passe autour. Je veux dire, ta relation avec tes joueurs, avec tes parents, les pensions, le staff, les fans, il y a tellement de choses. Mais je suis quand même content. Je suis heureux. Je me dis c'est un travail reconnu. Mais quand comme je vous disais, moi je suis pas un médecin qui sauve des vies, je suis un gars qui fait ce qu'il aime. Je suis un gars qui a vécu sa passion, d'accord? Et de ma passion, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu être créatif, j'ai pu vivre, j'ai pu voyager, j'ai pu vivre différentes expériences. Mais c'est certain que c'est pas toujours rose. Je veux dire, tu gagnes 2 matchs, tu gagnes 3 matchs, tu es au paradis, tu en perds 1 ou 2, hop, l'enfer arrive, là, ça brûle, ça chauffe. Quand est-ce qu'on te congédie? Quand est-ce que, tu sais, je veux dire, c'est pas une question de rester équilibré dans un déséquilibre émotif continuel. Tu veux dire, pas le hockey. Le hockey, c'est un sport d'émotion, d'accord? Quand t'en as pas, faut t'en créer. Quand t'en as trop, faut t'en enlèves. Tu sais, je veux dire, c'est rester équilibré dans tout cet engrenage-là. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. T'es toujours t'es toujours en challenge. Peu importe la ligue, média 3, junior 2A, collégial 3A, universitaire, ligue américaine, ligue nationale, t'es en perpétuel recommencement. Il faut être prêt à recommencer à tous les jours. Okay. Et il y a une chose, il faut que tu travailles et tu mets du temps. Si tu n'as pas de temps, excuse-moi, je veux dire, dans n'importe quel business, c'est de mettre le temps, d'accord, et de bien s'entourer. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de recette miracle. C'est pas une question de copier les autres, c'est d'être soi-même, d'accord, et de s'entourer. Puis, je trouve un principe dans la vie qui peut toujours exister, c'est que 3 choses. Tu bosses avec des bonnes personnes, OK, tu lui donnes des responsabilités, puis laisse-les travailler. Clément. Je parle trop, hein?
Non. T'es généreux, Clément, comme t'as toujours été.
J'ai une question qui me brûle, c'est Alexandre Pratt à la presse, Clément. J'ai une question qui me brûle la langue. Donc, vous êtes dans le coaching depuis 30 ans. Vous avez pas mal tout vu, là, tant dans la Ligue nationale que dans les Ligues nord. Depuis deux semaines, il y a plusieurs joueurs qui dénoncent les comportements de leur entraîneur. Est-ce que vous avez été témoin, vous, de gestes, ou est-ce que ça a beaucoup changé, ça, dans les 30 dernières années?
Moi, c'est beaucoup. Selon moi, il y a certains, peut-être, qui ont eu de l'abus de pouvoir, d'accord? Mais moi, je suis toujours très clair comme tu aimerais être traité, d'accord? C'est une question de respect. Le respect est une qualité première. Oui, il y a des côtés, des fois, qu'il faut que tu tordes la langue 10 fois avant de parler, OK? Et je pense que, on dit toujours, le silence est d'or, d'accord? Je pense qu'il y a des limites, puis il faut savoir un petit peu ses limites. Il n'y a personne de parfait, OK? Il n'y a personne de parfait. Mais je trouve qu'à un certain moment donné, peut-être le balancier est allé trop loin. Okay. Et le balancier doit revenir au milieu. Les jeunes ont changé, tout a changé. Tout est maintenant au téléphone, au Twitter, Facebook, etc., même et tout. Fait qu'il n'y a plus rien de. Tout est ouvert, tous tes comportements, toutes tes choses. Fait que c'est à toi à prendre des responsabilités qui vont avec.
Vous avez parlé des téléphones. Clément, est-ce que il y a des équipes ici en Amérique du Nord, là, qui ont de la difficulté avec leurs joueurs entre les périodes. Donc, les joueurs, en fait, consultent leur téléphone entre les périodes, aller voir qu'est-ce que les gens disent. Comment ça se passe, vous? Est-ce que vous interdisez les téléphones dans le vestiaire? Comment ça...
Tu sais, à un certain moment donné, je veux dire, ça dépend comment tes vestiaires sont faits.
Ah oui? Il y a des raccoins!
Les vestiaires sont prêts. Il y a des raccoins. Des fois, c'est plus facile à se cacher. Chez nous, je veux dire, c'est pas facile à se cacher. Je veux dire, je pense que c'est une question, je me dis, de professionnalisme. Ça s'enseigne, d'accord? Si je viens de dire ça s'enseigne, que ce soit aux des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, parce que les gens, je trouve, apprennent pas à vivre le moment présent, OK? T'es dans l'autobus, tu montes son téléphone, personne qui se parle. On dit qu'on communique, mais dans le fond, on communique pas. C'est un corps qui est présent, mais c'est pas l'esprit. Je veux pas faire de comparaison, OK? Ça a changé. Dans le coaching, il faut que tu saches t'adapter. Que ce soit en technologie, que ce soit en peu importe. Je pense que aux médias sociaux, je pense que les médias font partie de notre. Moi, je suis toujours le hockey, on pense qu'on dit c'est le coach. Non, c'est. Les médias sociaux font partie de ça aussi. Et quelle sorte d'éducation qu'on peut leur donner face à ça? C'est quoi? Moi, c'est toujours tu deviens une cible. La cible, c'est toi qui fais la garde des petites ou la garde des grandes. C'est la grande, c'est les gens vont t'attaquer. Donc, je me dis. Il n'y a pas de recette miracle, c'est à toi à imposer ce que tu veux. Okay? Mm-hmm. Il reste un fait que même si tu leur dis que tu n'as pas l'utiliser, en bien école, ils vont l'utiliser, mais il y a un temps pour chaque chose.
Clément, c'est Mario Langlois. J'ai aucun mal, Clément, à penser que tu as agi pendant toute ta carrière avec ce leitmotiv-là. Là, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas te faire faire. T'es un intellectuel du hockey. J'ai aucun doute là-dessus. Faut que, pour ça, je suis à l'aise de te poser la question suivante. Et je m'attends pas à ce que tu me donnes un front page et que tu balances qui que ce soit. Mais as-tu affaire à tourner la langue souvent dans ta vie ou à dire, j'en reviens pas de ce dont je suis témoin dans ta carrière d'entraîneur par rapport à des comportements d'entraîneur? Ça t'est-tu arrivé des fois d'être dans une situation où la culture n'était pas différente?
À un moment donné, je me dis, c'est certain que c'est passé des choses. Si je veux dire, mais de là à déterrer ce qui s'est passé, je pense qu'il continue d'avancer. Mm-hmm. Puis ceux qui sont coupables, mais c'est certain qu'ils le savent, d'accord? Ceux qui ont bien fait les choses, je me dis, dans le fond, à un certain moment donné, c'est de gagner à quel prix? Hein? Est-ce que c'est survivre à quel prix? C'est de gagner à quel prix? Est-ce que c'est de motiver à quel prix? OK? Quelle sorte de motivation? Je veux dire, il y avait toutes sortes de manières. Je pense que je me dis, il n'y a pas de secret, OK? Il n'y a pas de secret. Comment je dirais ça? Tout le monde, je veux dire, a fait des erreurs. Comme je te disais, quand tu fais quelque chose, sois prêt à en assumer les responsabilités. Fait que avant de juger quelqu'un, je pense que c'est mieux de me regarder un autre dans le miroir que de regarder un autre, lui a fait ci, lui a fait ça.
Ouais.
Je pense que c'est la responsabilité individuelle. C'est trop facile. Moi, je trouve que c'est trop facile de dénigrer une personne. Très facile de dénigrer une personne.
Sage parole, Clément.
Parlons. Non, mais Mario, il faut parler avec les faits, d'accord? Donc, peu importe, quand tu parles avec les joueurs, puis je me dis, mettons, dans une séance vidéo, les faits sont là. Tu parles pas à travers ton chapeau, tu vois ce qui se passe, ce qui se passe.
T'es pas obligé de l'humilier devant toute ton équipe pour qu'ils comprennent ça.
C'est ça, c'est en plein ça, c'est en plein ça. C'est une façon. Donc, tout est dans la façon. Fait que je me dis que ce qui se passe présentement, je pense que c'est bien pour le hockey. OK? Il y a eu de l'abus. L'important, c'est de revenir à la normalité. Oui, d'être exigeant, d'être sévère, mais de là à dépasser les bornes, je pense qu'il faut savoir s'arrêter.
Vous parliez tout à l'heure du championnat que vous avez présentement avec quelques équipes de chacun des pays. Au soccer, présentement, ils réfléchissent à faire exactement ce que vous vivez, vous, au hockey, c'est-à-dire c'est une ligue où tu as des équipes de plusieurs pays. Nonobstant la Ligue des champions, mais comment vous trouvez ça de devoir vous déplacer en Italie, dans chaque pays, à chaque fois que vous faites un voyage, dans le fond?
On se retrouvait en Suisse, on se retrouvait en Biélorussie, on se retrouvait un peu partout. C'est certain que ça affecte ton championnat régulier, parce que veux, veux pas, c'est une question de blessure après. Tu perds un joueur, tu perds deux joueurs, tu perds trois joueurs, ça te prend de la profondeur. Si t'as pas de profondeur, tu peux pas aller dans ce championnat-là.
Ouais.
C'est la même chose, comme tu dis au Champions League, au soccer, c'est la même chose. L'alignement d'une équipe de soccer, c'est pas seulement 10, là. Ils ont peut-être 25. Je veux dire, ils ont leur équipe ferme. Je veux dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de matchs. Donc, pour nous, c'était la même. Mais c'est une expérience enrichissante parce que tu vois d'autres systèmes de jeu. Les Suédois jouent d'une façon, les Finlandais jouent d'une façon, les Suisses jouent d'une façon.
Donc, tu touches à tout, là, c'est ça.
De vivre d'autres choses, de t'adapter. Tu touches à tout. Fait que l'année passée, on s'est fait pas en finale contre Frölunda, qui a gagné, a gagné les deux, trois dernières années. Moi, ce qui était important, je pense que quand tu viens en Allemagne, quand j'ai eu la chance de vivre l'an passé, le championnat, le Champions League, parce que quand tu es en Allemagne, mais je travaille en Allemagne, je veux que l'Allemagne ait eu 6. D'accord? Ouais. L'Allemagne s'est améliorée énormément, d'accord? Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais si je veux que l'Allemagne, j'aimerais ça qu'on gagne demain. On perd 4-0, mais j'aurais aimé ça qu'on soit quand même d'être compétitif le plus longtemps. Parce que tu atteins le respect de la façon dont tu compétitionnes. Si tu ne compétitionnes pas, tu n'as pas de respect.
Mm-hmm.
Mais si tu compétitionnes tout le temps, tu vas toujours être respecté. D'accord?
Oui.
Et pour moi, c'est, on en parle souvent, d'accord? C'est la façon de jouer qui va t'amener que tu vas être respecté.
J'aime ce que tu dis.
On joue contre eux autres. Oui. Et après, quand c'est inculqué, d'accord? Moi, il y a toujours un processus de culture. Quand c'est inculqué, mais ça fait partie ensuite, ça, on continue, on l'entretient. C'est de l'inculquer qui prend un certain temps. Et pour ça, ça prend les bonnes personnes pour inculquer ça. D'accord? Ça vient pas du jour au lendemain, c'est pas dans trois semaines, trois mois. Ça prend deux ans, trois ans, OK, de changer cette culture-là, de l'amener, de l'inculquer. Nous autres, on joue de cette façon-là. Ça se joue de cette façon-là. Il n'y a pas de midi à 14 heures, c'est comme ça, puis une façon de l'amener, de le présenter. Mais Don Jackson, qui est mon boss, ça fait quand même 6 ans qu'il est ici.
Oui.
Fait que il a sa manière, puis on embarque à sa manière, puis on joue à sa manière, puis il y a des pour et des contre, mais moi, je trouve ça tellement intéressant. On joue pas, moi, je suis toujours, on joue pour créer le revirement. On n'attend pas le revirement. On n'attend pas, on crée le revirement. Fait qu'il y a deux façons de jouer. Tu l'attrapes, tu attends le revirement, ou tu presses, tu crées le revirement. Fait qu'il y a deux façons de jouer. De créer ou d'attendre.
Clément, c'est intéressant. En tout cas, tu continues d'apprendre et tu continues de nous apprendre. Mais je reviens à ta nomination, puis ça va être notre dernière question pour compléter le balado d'aujourd'hui.
Oui.
Parce que quand on regarde sur tout ton cheminement, on aurait besoin de plus que trois heures, puis tu nous racontes tout. Mais l'intensité est quand même assez phénoménale à Montréal. Tu as vécu de belles années à Montréal. Tu as vécu des moments...
Oui, je suis ça. J'ai le corps, mais c'est là.
J'en doute pas. Et tu dois deviner que 8 défaites consécutives, là, ils n'ont gagné 2-3 la semaine dernière. Ça stoppe la crise. Mais rappelle-moi qu'est-ce que tu as vécu de plus... C'était quoi de... Quand tu es dans Marmite, quand tu es à l'intérieur du building et que tu fais partie du personnel d'entraîneur et que tu vis une séquence difficile, c'est quoi de vivre ça, Clément, à Montréal?
Bon, c'est d'en parler. Moi, je dis d'en parler à l'intérieur. C'est d'en parler à l'intérieur, puis continuer à se supporter, puis chercher toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, d'accord? Peu importe, que ce soit un meeting, que ce soit une rencontre, que ce soit, il y a toujours des solutions. C'est de trouver le moyen de... quand tu n'as plus de solution, ça veut dire que là tu es dans le trou. Mais il y a toujours une solution. Et c'est pas de regarder... ça, c'est un point que je trouve important. C'est pas de regarder l'adversaire d'en haut, mais de le regarder au même niveau que toi. Et quand tu regardes l'adversaire d'en haut, il est plus gros, plus grand, plus fort. Quand tu le regardes au même niveau de tes yeux, sans lever ou baisser la tête, il est au même niveau que toi. Fait que au niveau de la Ligue nationale, je veux dire, il y a un mot qui existe, c'est de gagner, d'accord? C'est professionnel. Et la victoire, je me dis toujours, achète la paix. Achète la paix pour 24 heures, 48 heures, 72 heures. Mais c'est d'essayer, mais c'est d'essayer de gagner le plus régulièrement possible. C'est pas facile, tu sais, à tenter une équipe. Je veux dire, le repêchage est important. Tous tes joueurs sont importants. Ton club ferme est important parce que veut pas des blessures, il y en a.
Te souviens-tu d'avoir, si tu me permets l'image, te souviens-tu d'avoir manqué d'air à Montréal? Trouvais-tu que l'oxygène était rare quand ça devenait difficile de naviguer dans des périodes, mettons, où il y avait plus de défaites que de victoires?
Il y a certaines villes, c'est plus difficile que d'autres, d'accord? Mais à Montréal, les fans, je veux dire, c'est les meilleurs fans du monde, ils aiment le hockey, d'accord? Ils suivent le hockey. Et souvent, c'est, moi je me dis, quand tu es un fan, une fois l'émotion va par-dessus bord, c'est de rester en contrôle de tes émotions. Fait que, mais les fans font partie de la game. Okay? Ils font partie de la presse. Celui qui vend les hot dogs, celui qui pense à Zamboni, le vendeur d'étiquettes, les ushers, ils font toute partie de ce game-là. D'accord? Puis, veux pas, souvent, tu sais, 8 games de suite, ça me faisait quoi? Moi, Canadien, je veux dire, tu sais, les Québécois et Montréalais, en instant, là, je veux dire, là, ils aiment leur équipe, ils veulent supporter leur équipe, mais c'est de rester compétitif le plus longtemps possible. Je vous souhaite le meilleur des chances, j'aimerais ça qu'ils fassent ces séries, je serais content. Comme underdog, je me dis, c'est encore mieux.
Ça serait extraordinaire.
On suit du bon personnel, mais on suit quand même des bons gens. Puis, un joueur se développe pas au micro-ondes, ça prend du temps. D'accord? Une fois, ça prend 2 ans, 3 ans avant qu'il atteigne la maturité nécessaire pour compétitionner. Parce que ce qui est important, un bon professionnel, c'est tu sais à quoi t'attendre de lui. Tandis que c'est le professionnel qui dit, bon, quel sort de game qui va me jouer à soir. Là, je veux dire, là, ça va être qu'est-ce qui va sortir de la boîte de Cracker Jack? Que je m'attends à quoi, là?
Okay? Ouais, non, tu nous ramènes dans nos souvenirs avec les boîtes de Cracker Jack.
Non, mais c'est qui est important, c'est ça. Je veux dire, c'est un bon professionnel, c'est qu'il joue avec constance, tu sais à quoi t'attendre, peu importe la situation. C'est un joueur complet, offensif, défensif. C'est juste un joueur offensif, c'est qu'est-ce qu'il a amélioré. Fait que, c'est beaucoup de petits détails, mais tout s'apprend. C'est une question de volonté.
Et pour terminer, conseillerais-tu à un joueur comme Charles Ludon de poursuivre sa carrière en Europe et de façon plus globale, toi qui as l'expertise des deux continents, Clément, quel est l'âge idéal pour un Québécois ou un joueur qui voit ses avenues, en tout cas qui voit le chemin se bloquer un peu devant lui, c'est en Amérique du Nord, quel est l'âge idéal pour aller vivre une belle carrière d'hockeyeur en Europe? Je pense à un exemple comme Charles Ludon, le cul-de-sac ici. Là.
Oui, oui. Moi, que Charles réalise son rêve premier, c'est jouer dans la Ligue nationale. Si un jour, il dit, OK, là, j'ai essayé, puis peut-être, je souhaite que ça marche, je souhaite qu'il revienne. Je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent à l'évidence d'une chose, OK? C'est pas parce que tu t'en vas en Europe que ça va être facile, OK? Parce qu'ils savent patiner, ils savent frapper, ils savent finir les mises en échec, puis ils savent compétitionner. Fait que tu joues contre des athlètes qui sont en excellente condition physique. Fait que souvent, on met « Oh, je m'en vais jouer en Europe. Bon, » En Europe, c'est pas si facile que ça. Et je pense que ça marche pas juste avec le passé. Faut que tu sois prêt à t'entraîner et à compétitionner d'une façon régulière, OK? Donc, pour moi, l'âge, c'est pas une question d'âge.
Okay.
C'est une question de savoir si tu veux continuer à te battre pour jouer dans la Ligue nationale ou si tu veux, maintenant changer complètement d'orientation. C'est pas une question d'âge. Je souhaite que Charles Ludon, je veux dire, prenne la meilleure décision possible. Je souhaite que Charles Ludon puisse continuer à jouer dans la Ligue nationale. Si c'est pas Canadien, que ce soit qu'un autre. Je me dis, mettez pas sous respect, d'accord, ce qui se passe en Europe. Si tu vas jouer en Suède, je vais dire une chose, tu vas savoir jouer au hockey, jouer en Suède, OK? Si tu vas jouer en Finlande, si tu vas jouer en Suisse, ça patine en Suisse. Si tu vas aller jouer en Russie, il y en a des joueurs au hockey.
Il n'y a pas personne qui s'en va là qui brûle la Ligue, là.
Non, c'est en plein ça. Fait que, donc, avant, tu sais, de dire, c'est plus beau dans le jardin du voisin, je pense que c'est d'essayer d'entretenir son jardin le mieux possible avant d'essayer d'en planter un autre à une autre place.
Clément, merci beaucoup de tes beaux moments, de ta grande sagesse, puis j'ai toujours pas su si tu avais trouvé une bonne sorte de bière à déguster en Allemagne, si jamais on s'en va passer quelques jours-là.
Il y en a tellement.
Il y en a tellement.
Il y a à peu près. Il y en a à peu près, c'est pas 5 villages, c'est-à-dire, ça, il y en a peut-être, c'est pas 15 000 sortes, mais c'est pas 20 000 sortes, mais elle est bonne.
Ben, au moment opportun, t'en ouvriras une à notre santé, mon cher Clément. Merci beaucoup. D'accord. Félicitations okay. pour ton intronisation. Merci de ton temps.
Merci bien.
Bye-bye.
Merci.
Au revoir.
Bye-bye, Mario.
Bye-bye, Clément. Hein, les gars, toujours intéressant de discuter avec un gars comme Clément Jaudoin, avec Philippe Quentin, Jérémy Filosa, Alexandre Pratt.
Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il a dit à la fin sur le hockey en Europe, d'ailleurs, là, c'est un bon rappel pour les hockeyeurs québécois. Tu sais, pour reprendre ton expression, Mario, il n'y a personne qui va là, qui va brûler la ligue. C'est dur et ça démontre comment l'internationalisation du hockey, c'est un succès. Le calibre est de plus en plus élevé. On l'a vu aux derniers Jeux olympiques.
Je suis content de voir qu'ils sont capables de jouer sur deux tableaux puis ça ne confond pas personne. Une saison régulière, Ligue des champions, puis
ils ont de l'air à suivre ça quand c'est facilement. Mais faire ça au hockey, Jérémy, ça amènerait les organisations à avoir un personnel de 30 joueurs, je pense
actifs ou...
On sait jamais. De faire jouer, je t'en reparlerai.
Mais parce que autres, les pays sont tellement prêts, tu sais, qu'ils peuvent le faire, mais ici,
moins de distance. Mais ça prendrait plus de joueurs, nécessairement, ça prendrait.
Mais ça serait, on pourra en parler dans un prochain podcast, mais l'idée d'un tournoi de mi-saison, moi j'y crois. Puis j'ai déjà écrit une chronique là-dessus, puis la NBA va le faire probablement là, dès l'année prochaine.
On va en reparler, les gars. Il n'y a pas de limite de temps dans un podcast, mais en tout cas, si jamais vous étiez capable d'en prendre encore, faites-nous le savoir par les moyens de nous contacter via messagerie, médias sociaux et compagnie, puis on le saura pour la prochaine fois. On a l'impression qu'on a donné ce qu'on avait à donner pour aujourd'hui. Musique, s'il vous plaît. Les gars, on va se retrouver vendredi. Il y aura deux matchs de jouer. Canadiens qui jouent demain contre Pittsburgh et qui jouent à nouveau mercredi contre les sénateurs d'Ottawa. Ça va ressembler à combien de points sur quatre?
Deux points sur quatre.
Deux points sur quatre.
Trois.
Je vais oser quatre. Non, on en a un petit peu. J'ai-tu dit 4 contre Pittsburgh? Attendez un petit peu, là. Je vais vous en reparler vendredi.
Quand ça va être fait, c'est facile, ça.
OK. 4, tiens. Ouais, 4. Non, je le sens, okay?
OK?
Avec 7 gars de la Ligue américaine, les boys. 7 ou 8, Félix.
Pas pire pour un club en reconstruction. 4 sur 4.
C'est quoi un club?
Ben, les sénateurs, il y en a 12.
OK. Ouais. Salut, les gars. Salut. Cher public, à bientôt. Merci à Clément Jaudoin. Ciao, ciao.